c'est que tu peux sortir d'une façon différente que tu es entré. Je crois que Dieu peut faire une œuvre en toi aujourd'hui. Il peut venir te renouveler, il peut te donner une nouvelle perspective sur ce que tu vis en ce moment et ton année 2024 peut prendre une tournure complètement différente si aujourd'hui tu écoutes et tu mets en pratique le message qui va être donné. Peut-être qu'en ce moment, tu reviens de tes vacances de Noël. Tu disais, je vais passer du bon temps en famille, ça va être du repos, ça va être plaisant. Mais on est tous revenus et des fois, on est plus fatigués en fait qu'avant les vacances. Et je sais pas si c'est votre cas pour vous, mais souvent quand je parle avec différents collègues, ils me disent, on est revenus de vacances, mais c'était pas vraiment des vacances. On est plus brûlés qu'avant. Et ça, des fois, c'est une réalité qu'on peut vivre quand on part dans les vacances de Noël. Et on a besoin d'être renouvelé par Dieu. On a besoin d'être revigoré par le Saint-Esprit. On a besoin d'y faire confiance pour qu'il vienne faire une œuvre en nous et que cette année soit différente. Peut-être qu'en ce début d'année 2024, tu es dans une période de questionnement. Peut-être qu'avec la nouvelle année qui commence, tu regardes aux objectifs que tu t'avais fixés l'an passé, tu n'as pas réussi à les atteindre. Puis là, tu commences cette année puis tu dis, est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est encore une période où est-ce que je vais faire des objectifs? Est-ce que je vais les réussir ou non? Peut-être que tu rencontres des difficultés à ton travail. Peut-être qu'en ce moment, tu dis, est-ce que je suis dû pour un changement de carrière? Je suis dû pour un nouvel emploi, un nouvel job et je me demande qu'est-ce que je dois faire avec ça. Peut-être que tu es en train de chercher des façons d'améliorer ta situation dans ton mariage. Peut-être que tu rencontres des défis dans ton mariage, dans ton couple et tu demandes comment 2024 va être à ce niveau-là. Peut-être que tu es en train de considérer un nouveau programme d'entraînement, une nouvelle diète pour 2024 et tu dis comment je vais pouvoir arriver à réussir cette année les objectifs que je me suis mis en place. Tu es peut-être découragé de voir ton relevé de carte de crédit. Peut-être qu'il y en a qui ont checké sur leur application puis ont dit « Hey, Noël, ça coûtait cher, les sorties en famille, les cadeaux pour tous les enfants. » Moi, je commence à en avoir plusieurs puis là, tu dis « Il faut que tu sois équitable. Si tu donnes un cadeau à un, il faut que l'autre ait un cadeau similaire parce que sinon, ils vont te le dire l'an prochain. » Fait que après, on regarde notre relevé de carte de crédit puis tu dis « Oh, est-ce que je vais me relever de ça? Est-ce que je vais être capable de passer par-dessus? » La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, la bonne nouvelle pour moi, c'est que malgré les questionnements, malgré la fatigue, malgré des fois le découragement, si on fait confiance à Dieu, si on expose qu'est-ce qu'on vit en ce moment, il peut te renouveler et te donner une assurance pour cette nouvelle année. Et le titre de mon message pour vous aujourd'hui, c'est « Reprends courage ». J'aimerais aller avec vous dans un texte en Ésaïe, chapitre 40, versets 25 à 31. Ici, on a le prophète Ésaïe qui est un prophète de l'Ancien Testament qui va avoir une parole pour le peuple de Dieu. Et donc, je vais lire le texte. C'est un plus long texte, mais après, on va l'étudier ensemble. Donc, verset 25. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Mon premier point pour vous, c'est que pour reprendre courage, il faut reconnaître la grandeur de Dieu. C'est la première étape. Si on veut reprendre courage, il faut constater comment notre Dieu est grand, comment notre Dieu est bon. Regardez comment il commence ce passage-là au verset 25 et 26. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » demande le Saint. « Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre et les appelle tous par leur nom. » Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Des fois, il faut juste se remettre en perspective qu'on sert le Dieu d'éternité, le Dieu infiniment bon, le Dieu infiniment grand qui a tout créé. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est trois fois saint, il est le Dieu créateur qui tient l'univers dans ses mains. Et des fois, juste quand on se rappelle ça, quand on prend juste le temps de dire à quel point qu'on sert un grand Dieu, peut-être que les problèmes qu'on vit en ce moment changent et deviennent plus petits Parfois, en regardant à Dieu, on dit à quel point qu'il est grand, nos problèmes peuvent devenir petits. Dieu n'est jamais fatigué. Dieu n'est jamais épuisé. Dieu est toujours en action. Il est toujours présent. Du moment que tu es là, tu vis une difficulté, qu'il soit minuit, qu'il soit 1h du matin, qu'il soit 6h le matin, Dieu est là, il est présent pour t'aider. Il ne manque jamais de force, il n'est jamais épuisé, jamais fatigué. La différence, c'est que cette année, en 2024, est-ce que tu vas prendre le temps d'aller parler à Dieu? Est-ce que tu vas investir du temps avec lui dans ta relation pour qu'il vienne te renouveler, te donner de l'énergie? Parfois, face à nos problèmes, face à nos situations difficiles de nos vies, il faut seulement avoir le réflexe de s'arrêter. Juste de dire, je prends un temps de pause, je reconnais qui Dieu est, et juste en faisant ça, notre journée n'est pas la même. On a la perspective que Dieu est grand et peut tout régler pour nous. On est capable des fois de reconnaître la grandeur de Dieu. On dit, on sert un grand Dieu, on sait ce que Jésus a fait à la croix pour nous. On reconnaît son œuvre pour nous, mais des fois, on oublie à quel point aussi Dieu veut une relation de proximité avec nous. On regarde Dieu qui est grand, mais est-ce que Dieu veut vraiment s'occuper de moi aussi personnellement? Et des fois, c'est un défi qu'on peut avoir en tant que chrétien. Mais le Dieu qui est infiniment grand a voulu aussi avoir une proximité avec nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre pour nous racheter nos fautes, nos péchés, afin qu'on ait cette relation rétablie avec Dieu le Père. Et c'est ce que Dieu s'attend de nous qu'on fasse cette année, qu'on s'attarde à passer du temps avec lui tous les jours. Regardez au verset 27 et 28, qu'est-ce qu'il va dire? À quel point Dieu, lui, il connaît notre humanité, à quel point il sait qu'on a besoin de se rapprocher de lui. Il va dire verset 27, « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. » Dans ce passage-là, Dieu nous montre clairement qu'il connaît notre humanité. Il sait qu'on peut avoir facilement tendance à aller à gauche, aller à droite, à oublier sa grandeur, mais il sait qu'on a besoin de lui. Il sait qu'au moment qu'on va vers lui et qu'on fait appel à lui, il est là pour nous écouter et nous faire du bien. Peut-être qu'en ce moment, tu te retrouves dans une situation où tu as des problèmes financiers, tu as la misère à joindre les deux bouts. Probablement que 2024 commence, puis vous regardez les taux d'inflation, les taux d'intérêt, puis vous dites comment qu'on va faire cette année pour acheter une propriété, comment on va faire pour acheter certains biens pour que notre vie avance. Peut-être qu'au niveau de tes études ou ton travail, en ce moment, tu vis certaines difficultés, puis tu te dis, est-ce que ça va être la même chose qu'en 2023? Est-ce qu'en 2024, je vais avoir des difficultés aussi avec mon emploi, avec mon travail? Tu es découragé, tu penses peut-être même abandonner certaines facettes de ta vie. Rappelle-toi que Dieu voit ta situation. Rappelle-toi que Dieu veut t'aider. Il t'attend, il veut que tu passes du temps avec lui, il veut te donner une direction pour t'aider. Comme je disais, Jésus est venu sur terre pour rétablir la relation qui était brisée entre les hommes et Dieu. Il est venu sur terre afin que tu aies une vie nouvelle, et il est venu sur terre afin que tu puisses avoir cette proximité-là avec Dieu et que Dieu puisse t'aider dans chaque aspect de ta vie. Dieu veut tellement ton bien qu'il n'a pas juste envoyé son fils Jésus, le Saint-Esprit habite maintenant en nous. Et le Saint-Esprit nous pousse à chaque jour à aller vers Dieu, à prier, à lui demander son aide, à faire une différence qu'à chaque jour, on a la perspective de Dieu face à ce qu'on vit et aussi qu'on est capable d'être de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est à quel point Dieu souhaite bâtir une relation avec toi aujourd'hui. Dieu t'a à cœur. La réalité, c'est que tant qu'on ne reconnaît pas en tant qu'humain, en tant que chrétien, que Dieu est infiniment bon, Dieu est infiniment grand, que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et qu'il nous a donné son Saint-Esprit, toute notre vie chrétienne va être limitée. Tant qu'on n'est pas capable de s'arrêter puis de reconnaître la grandeur de Dieu, souvent on va mettre des freins à plusieurs autres endroits. C'est souvent la première étape. On reconnaît ce que Dieu est, on reconnaît ce que Dieu a fait et après on reconnaît qu'il peut faire un changement dans nos vies. Regardez aussi ce que le texte va nous dire plus loin en Ésaïe 42, 3. Pour moi, c'est tellement important parce que des fois, je parle avec des gens, puis pastoralement, les gens ne vont pas le dire dans une grande salle, je vis telle situation ou je ne crois pas que Dieu peut m'aider. Mais quand on les rencontre un à un, des fois, les gens disent, est-ce que je suis assez important? Est-ce que Dieu veut vraiment s'attarder à ce que je vis en ce moment? Est-ce que je suis trop brisé? Est-ce que je suis trop loin de Dieu? Est-ce que Dieu peut vraiment faire une différence dans ma vie? Et le texte en Ésaïe 42, 3, moi, je trouve que c'est une des parfaites réponses à ces questions-là. Verset 3, il dit, « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Jésus n'est pas venu pour te casser. Jésus est venu pour te réparer. Jésus est venu pour t'apporter des solutions dans ce que tu vis. Il veut te donner une direction, t'encadrer et t'aider à passer à travers chaque situation que tu pourrais vivre dans la vie de tous les jours. Il faut seulement que tu reprennes courage et que tu crois que Dieu peut faire une réelle différence dans ta vie. C'est là que ça fait complètement le changement. Ne perds pas espoir face à ta situation, mais fais confiance à celui qui t'abandonnera jamais. Dieu est toujours là, toujours présent. Il attend juste qu'on cogne à sa porte et lui va agir pour nous. Mon premier point, c'était que pour reprendre courage, il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Et mon deuxième point, c'est que pour reprendre courage, il faut passer du temps avec Dieu. Et j'espère que c'est une de tes priorités pour 2024 cette année, c'est de prendre du temps avec Dieu, de mettre du temps à part. Et je voulais vous relire le texte en Ésaïe 40, 29 à 31, qui illustre bien comment de passer du temps avec Dieu peut nous redonner courage et nous redonner la fonction de faire ce qu'on a à faire dans notre journée. Voici verset 29 à 31. « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles et ils courent sans s'épuiser. » Il marche sans se fatiguer. Je voulais vous conter une histoire. Moi, j'ai une cousine éloignée à moi qui est dans le ministère. Elle a 4 enfants. Elle travaillait souvent en Asie, à plusieurs endroits dans le monde. Donc, des voyages pas juste de 2-3 heures, là, vraiment à l'international. Et quand je parlais avec elle, je dis « Comment tu fais? » Comment tu fais pour faire du ministère à l'international, gérer 4 enfants, gérer la vie de tous les jours? Comment tu fais? Je dis « Moi, je regarde ça humainement, puis je trouve ça vraiment bon que tu es capable de faire tout ça. » Puis là, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle se lève très tôt le matin. Qu'elle se levait, je pense, de mémoire, autour de 5 heures du matin à tous les jours pour passer au moins une heure, un temps prolongé avec Dieu dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans l'adoration. Puis là, humainement, moi, j'étais là, dans ce temps-là, j'avais peut-être autour de 22, 23 ans. Puis là, j'ai dit, moi, si je me lève à cette heure-là, je vais juste être brûlé. J'ai dit, je ne serai pas capable de faire ma journée. Oublie ça, là. Tu sais, comment tu veux que je me lève à 5 heures, puis qu'après, je travaille, puis qu'après, je fasse ma soirée, tout ça, ça serait trop demandant. Puis elle m'a arrêté, puis elle m'a dit, c'est complètement l'inverse. C'est complètement à l'inverse, Sam. Le fait que je me lève à 5 heures du matin pour prier, adorer Dieu, fait que j'ai toute l'énergie nécessaire pour faire ma journée. Dieu me donne la force de faire ce que je suis supposé faire. Et pour moi, ça représente bien ce qui est marqué au verset 31. « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. » Je ne connais pas ton horaire, je ne connais pas à quel point ton calendrier est chargé, je ne connais pas combien tu as d'enfants, combien de responsabilités tu as en semaine. Mais une chose est sûre, c'est que tu prends le temps à chaque jour de t'arrêter, de juste mettre un temps à part, ce n'est pas obligé d'être à 5 heures du matin, mais de prendre un temps pour lire ta Bible, prendre un temps pour prier, louer Dieu. Je te garantis une chose, c'est que ton année 2024 va être complètement différente des autres années. Tu peux voir une percée spirituelle dans ta vie. Tu peux avoir des choses qui vont débloquer qu'avant, année après année, tu avais un échec, ça n'allait pas dans la direction que tu voulais. Mais après avoir passé du temps avec Dieu, tes énergies sont renouvelées, ta force est renouvelée et tu reprends courage en Dieu. Trop souvent, on se laisse convaincre qu'on n'a pas le temps. Il y a des choses plus pressantes à faire. Je dois faire ci, je dois faire ça avant d'investir du temps avec Dieu. Mais quand on met Dieu en priorité, c'est là que tout le reste prend place. Toutes les bonnes directions, toutes les choses qu'on doit faire, le plan de Dieu pour nous devient clair. À chaque fois que tu passes du temps dans sa présence, Dieu vient te renouveler par son Saint-Esprit et t'aide à passer à travers ta journée. Laisse-moi dire que si tu es chargé en ce moment, si tu es fatigué, tu es découragé, tu n'as pas besoin d'un nouveau régime, tu n'as pas besoin d'un nouveau programme de sport, tu n'as pas besoin d'une journée au spa, même si ça fait du bien. Ce que tu as le plus besoin, c'est de passer du temps avec Dieu. Puis comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal avec ça. Pour moi, tu sais, aller au spa, se reposer, prendre du temps pour soi, c'est toutes des bonnes choses. Mais des fois, humainement parlant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inverse. On fait ça premièrement et après, on se dit, on va passer du temps avec Dieu. Mais il faut raligner nos priorités. Il faut passer du temps avec Dieu et après, on a l'énergie pour faire le reste. Lorsqu'on prie, Dieu nous donne une nouvelle perspective face à nos combats de la vie quotidienne. Quand tu prends le temps, pardon, d'exposer à Dieu ce que tu vis en prière, tu combats plus seulement avec tes propres forces, mais tu combats avec ses forces à lui. Peut-être que tu essaies de combattre en ce moment tes situations par tes propres moyens, tes propres forces. Des fois aussi, on va arriver avec des solutions par nous-mêmes. Puis c'est pas tout le temps des mauvaises solutions. Mais Dieu, il a la solution pour nous. Dieu, il a un plan parfait et quand on lui fait confiance, il est capable de nous diriger exactement où ce qu'il veut qu'on soit. Quand tu remets à Dieu chaque aspect de ta vie, chaque situation, lui, il s'occupe du reste. Quand on met notre confiance pleinement en lui, pas juste en nous, nous, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on dit, on se fait confiance, ça va bien aller. Je sais, j'ai déjà fait auparavant cette solution-là, ça a fonctionné. Au lieu de demander à Dieu comment on peut sortir d'une situation des fois qui est problématique, Dieu veut nous aider dans chaque aspect. Regardez ce qu'il dit à la fin du verset 31. « Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Moi, ce que je trouvais intéressant avec ce passage-là, parce qu'ils font référence aux aigles. Et quand on étudie les aigles, on se rend compte que c'est des carnivores. On rend compte que les aigles, ils mangent pas juste des petites proies, des petites souris, ils mangent des gros serpents. Ils mangent des pitons, plein de gros serpents. Et moi, je regardais à ça, puis je trouvais ça incroyable. Je me dis, comment il fait le serpent pour manger ces gros serpents-là? Comment il fait l'aigle, pardon, pour manger ces serpents-là? Donc, l'aigle descend de haut, il voit de loin, arrive et vient saisir la proie au niveau du sol et l'amène directement dans les airs, pardon. Et quand il les amène dans les airs, il les monte très, très, très haut et après, il laisse tomber. La proie tombe à terre, arrive au sol, décède et après, l'aigle peut manger le serpent parce qu'il est mort au niveau du sol. Mais vous comprendrez que si l'aigle essayait de combattre avec le serpent au niveau du sol, il y a des bonnes chances qu'il perdrait. Il y a des bonnes chances qu'il ne gagnerait pas cette bataille-là. Mais à chaque fois qu'il prend le serpent, qu'il monte dans les airs et qu'il laisse tomber, c'est une victoire assurée à tous les coups. Le serpent, il n'y a pas ce qu'il faut pour se battre dans les airs. Et nous, humainement, des fois, on veut battre les choses par nos propres forces. On veut trouver nos propres solutions. On veut se battre au niveau du sol. Mais quand tu prends ta situation, que tu l'amènes à Dieu et que tu l'élèves, Dieu combat avec toi et tu peux aller chercher la victoire à tous les coups dans le nom de Jésus. Tu peux aller chercher peut-être que tu vis des choses cette année ou dans les années précédentes que tu dis tu subis défaite après défaite. Mais si tu prends ta situation et maintenant tu l'élèves vers Dieu, peut-être que tu vas aller chercher la victoire cette année sur ce que tu n'avais jamais réussi. Ça peut être sur des comportements de dépendance, ça peut être sur des choses qui sont conflictuelles dans ta famille, dans ton mariage, que ça fait des années que ça dure. Si tu élèves cette situation-là à Dieu, Dieu peut la changer pour toi. Mon troisième et dernier point pour vous, c'est que pour reprendre courage, il faut consulter Dieu. Moi, je voulais aller complètement dans un autre texte, mais qui illustre très bien ce point-là. Le roi David, qui était un grand roi, qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, va se retrouver dans une situation éventuellement où ce qu'il va aller en guerre et va retourner vers chez lui. Et alors qu'il est en route vers chez lui, il va voir des incendies au loin. Il va voir que son village à lui a été attaqué et que sa famille a été prise. Et on va voir comment David s'est senti à ce moment-là et quelle a été sa réaction. Donc, on peut voir ça en 1 Samuel 30, versets 1 à 8 que je vais vous lire. Deux jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag, qui était sa ville, avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Négev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors, David et la troupe qui l'accompagnaient se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux hommes de David, Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. Les deux femmes de David, ça, c'est une autre époque quand même. Et je poursuis, David fut dans une grande angoisse car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achiménec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Pour moi, quand je lisais ce texte-là, c'était frappant. Pour moi, de constater que parfois dans nos vies, les combats qui sont les plus difficiles, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe alentour de nous, dans notre travail, dans nos réseaux d'amis, tout ça. Si les combats qui sont les plus durs, ce sont les combats internes, les combats qui se passent dans notre maison. David, lui, il était à la guerre, il était parti faire ça, c'était son métier, il était un homme de guerre. Il retourne chez lui, il pense qu'il va se reposer, il pense que ça va être la vie facile à partir de ce moment-là, mais le plus gros combat était quand il est retourné chez lui. Quand il est retourné chez lui, sa maison était en feu. Sa femme et ses enfants étaient pris. Et des fois, on se retrouve dans cette difficulté-là que nous, on est à l'extérieur de chez nous, on fait notre profession, la vie va bien, mais quand on retourne à la maison, c'est là que c'est difficile. C'est là que peut-être que les moments les plus difficiles de ta vie, c'est quand tu reviens à la maison et tu constates qu'il y a des choses qui sont brisées dans ta maison. Et imaginez la consternation de David. Imaginez la consternation de ses troupes. Ils voient que leurs maisons sont passées au feu. Et la réalité, c'est que d'une façon ou d'une autre, nous, on va peut-être pas voir nos maisons en feu. En tout cas, je te le souhaite pas. Tes enfants vont sûrement pas se faire kidnapper. Mais des fois, quand on retourne à la maison, il y a des feux qui sont là. Il y a des feux qu'on doit éteindre, qu'on dit « comment je vais gérer cette situation-là? Comment je peux arriver à rentrer chez moi et que la paix revienne? » Et comment qu'on peut faire ça? On va le voir plus loin avec la réaction de David. Mais je veux m'attarder premièrement sur comment David et ses hommes se sentaient. Comment eux se sentaient à ce moment-là. Parce que peut-être qu'en ce moment, tu vis une situation qui est compliquée, qui est difficile, et tes émotions que tu vis, peut-être que tu pleures, peut-être que tu es dans l'angoisse, peut-être que tu es simplement découragé. Mais je veux dire que comme David, toi aussi, tu peux sortir de cette situation-là. Le texte nous dit que David et sa troupe ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Imaginez-le, des hommes de guerre, des hommes forts qui reviennent de la guerre, qui pleurent jusqu'à temps qu'ils ne soient plus capables de pleurer. On voit à quel point ils étaient en détresse. On parle même qu'ils voulaient lapider David à cause que leurs femmes et leurs enfants avaient été pris. La réalité, c'est qu'il n'y a rien qui fait plus mal que lorsque c'est ta famille qui est attaquée. Peut-être que tout le reste peut bien aller, mais quand ta famille est attaquée, c'est un sujet qui est sensible. Mais regardez ce qui est dit à la fin du verset 6. « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Tout peut changer en un instant dans ta vie, dans ta situation. Du moment que tu consultes Dieu, du moment que tu lui fais confiance, ta situation peut changer. En ce moment, je ne sais pas c'est quoi les combats que tu vis. Peut-être qu'en ce moment, il y a un ado dans ta famille qui est parti, qui est loin de Dieu, puis tu demandes qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'il revienne. Peut-être que ta situation financière est difficile, puis tu es dans une situation qu'il va peut-être falloir que tu vendes certaines choses ou que tu déménages, puis tu dis comment je vais réussir à joindre les deux bouts. Peut-être qu'en ce moment, dans ton couple, c'est compliqué. Année après année, vous chicanez sur différents sujets, puis tu demandes comment je vais réussir, puis ça vient paralyser tout le reste de ta vie. David est revenu chez lui, il y avait un incendie, sa famille avait été prise, mais ce qu'il faut s'attarder, c'est vraiment comment David a affronté la situation. Peu importe la grandeur de ton problème en ce moment, peu importe la grandeur de la difficulté que tu vis, c'est l'attitude de David qu'il faut regarder. Parce que David, face à cette situation, il aurait pu juste tomber à terre et dire « bon, c'est terminé, ça va juste trop mal, j'abandonne ». Non, ça n'a pas été ça, sa réaction. Sa réaction, c'est qu'il dit « je reprends courage et je vais aller consulter Dieu ». Et voici ce que le verset 8 va nous dire plus loin. « David consulta l'Éternel en disant « dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? » L'Éternel lui répondit « poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Alors que tout semblait perdu, alors que David pensait qu'il ne retrouverait jamais sa femme, ses enfants, Dieu annonce la victoire à David. Dieu annonce à David que parce que tu m'as consulté, tu vas rattraper ce qui était perdu. Tu vas avoir toute ta famille, tous tes enfants, tous les biens qui avaient été pris. Et ça, c'est la différence. Est-ce qu'on va consulter Dieu en 2024? Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Regarde en ce moment ce qui t'a été volé par l'ennemi. Peut-être que dans les dernières années, dans ta famille, peut-être que dans ton travail, dans ta carrière, il y a des choses qui ont été prises année après année. Et aujourd'hui, il est peut-être le temps, tu dis, ça l'arrête. Aujourd'hui, je consulte Dieu, j'amène ça à Dieu et j'arrête de me faire voler par l'ennemi. Maintenant, je vais aller reprendre ce que l'ennemi m'a pris, comme David l'a eu. Dieu peut rétablir une relation brisée. Dieu peut rétablir même la relation que tu as de briser entre toi et Dieu. Dieu peut tout rétablir du moment que tu lui fais confiance, du moment que tu veux qui fasse une différence dans ta vie. Dieu peut renverser n'importe quelle situation. Après avoir consulté l'Éternel, David, il va reprendre courage. David va entamer une expédition avec ses hommes afin d'aller chercher ce que l'ennemi lui avait pris. Et des fois, ça, c'est une réalité qu'on peut vivre. Des fois, on va consulter Dieu et Dieu va dire qu'on va avoir la victoire sur tel ou tel aspect de notre vie, mais on doit aller chercher cette victoire-là. On doit se rendre du point A ou du point B. Mais quand on a l'assurance que Dieu nous a donné la victoire, on est capable de partir en expédition. On est capable de faire comme David et ses troupes ont fait, d'entamer une marche pour aller chercher la victoire sur ce qu'on vit. Regardez ce que le texte va nous dire plus loin, versets 18 à 19. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il livra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Pas juste une partie, pas juste une proportion, David ramena tout. Et nous, des fois, c'est cette attitude. Des fois, on se contente de certains aspects, certaines choses que Dieu va nous donner, mais Dieu, des fois, veut tout ramener dans ta vie. Dieu veut rétablir ce qui a été brisé. Dieu veut être la solution dans chacun des aspects de ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu te demandes si tu es dans le bon chemin en ce moment. Moi, je te dirais que la différence, c'est si tu as consulté Dieu ou non. En 2024, l'année commence. Tu vas avoir une direction pour ta vie. Tu vas avoir un plan pour ta vie. Tu veux être sûr que tu es dans la volonté de Dieu pour toi. Il faut que tu le consultes. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter puis dire, « Seigneur Dieu, face à ce combat-là, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la direction pour moi? » J'inviterai les musiciens à venir bien me rejoindre, s'il vous plaît. Quand Dieu et ma femme et moi, on a décidé de venir à Nouvelle-Vie, Québec, pour faire l'implantation d'église, à ce moment-là, moi, j'étais à Nouvelle-Vie, Longueuil. Et j'étais pasteur là-bas, temps plein, j'avais plein de tâches. Et à l'époque, j'avais peut-être autour de 25-26 ans. Et je peux vous dire, c'est rare un pasteur temps plein. J'avais une belle sécurité, c'était le fun. Mais à un moment donné, en parlant avec ma femme et en parlant du projet de Nouvelle-Vie, Québec, on s'est rendu compte que Dieu nous appelait vers ce projet-là, dans la Nouvelle-Vie Québec. Puis au début, ça ne faisait pas de sens. Parce que, tu sais, quand tu as une sécurité, ma femme était enceinte de notre première enfant à ce niveau-là. Puis on se dit, ben ça va être quoi ma vie? On déménage à un endroit qu'il n'y a pas une église Nouvelle-Vie. On part de zéro. Est-ce qu'on va rencontrer des difficultés financières? Est-ce que ça va être difficile pour nous? Et alors qu'on consultait Dieu, Dieu mettait de plus en plus fort dans notre cœur qu'on devait faire ce projet-là, qu'on devait aller avec Pasteur JP implanter l'église à Québec. Donc, on a fait des pas de foi, on a décidé de le faire. Et pour avancer le projet, j'ai dû quitter mon emploi temps plein à Nouvelle-Vie, Longueuil, pour travailler sur le projet de différentes façons. J'ai été chercher du financement pour l'implantation d'églises à Québec. Et à cause de ça, il a fallu aussi que je retourne travailler dans un emploi séculier. J'ai travaillé 2 ans dans un entrepôt. Ça semblait être loin de où ce que je voulais être en réalité. Mais Dieu nous avait mis la conviction que c'est ce qu'on devait faire pour nos vies. Et pour l'implantation d'églises à Québec, alors qu'on travaillait pendant 2 ans sur ce projet-là, ça avançait de peu à peu. Mais là, à un moment donné, il y a eu qu'est-ce qu'on appelle une pandémie. Donc, on a commencé l'église sur Zoom pendant presque 1 an. On a commencé l'église, on était moins de 50 personnes sur Zoom. Et d'étape en étape, les gens ont commencé à venir de plus en plus. Et maintenant, après 2 ans, on est plus de 1000 personnes à Nouvelle-Vie Québec. Et c'est clairement un miracle de Dieu. Tu sais, on n'a pas d'explication à ça, on est juste venu pour servir fidèlement. Et Dieu aurait pu faire ce qu'il a fait à Nouvelle-Vie Québec sans que ma femme et moi soyons là-bas. Dieu avait quelque chose à faire à Nouvelle-Vie Québec et il le fait. Mais la réalité, c'est que nous, on aurait peut-être passé à côté de ça. On aurait peut-être passé à côté de ce que Dieu avait prévu et avait en réserve pour nous si on ne l'avait pas consulté. On l'a consulté, on savait que c'était la direction qu'il voulait pour nous et on a été obéissant, même si au début, ça ne faisait pas nécessairement de sens. Puis il y a plein de gens qui nous disaient, « T'es sûr, là, ça va être compliqué, tu n'as aucune garantie. » Mais quand tu es convaincu de la part de Dieu, il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu marches avec lui. Et peut-être que là, ce matin, tu vas prier Dieu, tu vas le consulter, il va te donner une direction pour ta vie, il va te donner un plan pour ta vie. Sois obéissant. Écoute-le. Même si ça ne fait pas nécessairement tout son sens, si c'est un gros projet, priez là-dessus. Prenez le temps de bien l'étayer puis aller chercher la paix de Dieu face à ça. Mais Dieu peut vous donner une direction claire pour votre vie. Je vous invite à vous lever. Le message va bientôt terminer. En ce moment, je veux pas que tu passes à côté de ce que Dieu a en réserve pour toi. Je veux que ce matin, alors qu'on va rentrer dans la louange après, que tu aies une attitude de prière, que tu aies une attitude de vouloir consulter Dieu, d'essayer de chercher une direction pour ta vie en 2024. On est en début d'année, il y a plusieurs choix qui vont être faits et c'est important de simplement consulter Dieu. Ta vie peut changer drastiquement du moment que tu lui as fait confiance. Ton année 2024 peut être complètement différente de toutes les autres années que tu as vécues. Oublie les autres, oublie ce que les gens pourraient penser de toi. Concentre-toi plutôt à aller chercher la direction de Dieu pour ta vie. Peut-être qu'en ce moment, tu as simplement besoin de te rappeler qui Dieu est, de te rappeler de sa grandeur, de te rappeler à quel point qu'il est bon, à quel point qu'il est le Dieu qui pourvoit, que peu importe où ce qu'il va t'amener, il va prendre soin de toi dans chaque aspect. Si tu lui fais confiance et que tu reconnais sa grandeur, il va prendre soin de tous les autres aspects. Peut-être qu'en 2024, maintenant, tu vas décider de mettre un temps à part pour Dieu. Que tu dis aujourd'hui et pour le reste de l'année, je vais consacrer un temps. Ça peut être 5, 10, 15, 20, 30 minutes, même une heure. Mais que maintenant, tu vas dire, je vais prendre le temps de prier. Je vais prendre le temps de lire ma Bible, louer, adorer Dieu. Que mon année soit différente parce que j'aurai investi dans ma relation avec lui. Je veux prier aussi avec toi si en ce moment, tu fais face à un incendie dans ta famille. Que tu regardes à ça et tu dis, il y a tellement de choses brisées, il y a tellement de choses compliquées. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Je veux juste te dire que si tu consultes Dieu ce matin, il peut changer tout. Si tu fais confiance, si tu mets ta foi en Jésus, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus. Et c'est l'étape que vous devez faire ce matin. Vous allez le consulter et vous allez vous attendre qu'il peut changer radicalement votre vie. Je veux prier pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce qui prend place ici à Nouvelle Vie Charlevoix. Je te prie de bénir abondamment chacune des personnes qui sont ici présentes ce matin. Que tu puisses venir les fortifier, que tu puisses venir les renouveler par ton esprit. Qu'alors qu'ils vont te faire confiance, qu'alors qu'ils vont marcher avec toi, toi, tu vas prendre soin d'eux dans tous les aspects. Alors qu'ils vont reconnaître ta grandeur, à quel point tu es le Dieu bon et grand qui s'est manifesté en Jésus-Christ afin de nous donner la vie éternelle, eux puissent marcher avec confiance dans la vie de tous les jours. Qu'alors qu'ils vont consacrer du temps dans leur vie de prière, alors qu'ils vont consacrer du temps dans ton adoration de toi, Seigneur mon Dieu, leur vie va être complètement différente. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui vont venir te consulter ce matin. Je te prie que tu puisses venir mettre une paix dans leur cœur, que tu puisses venir pourvoir et tu puisses venir donner une direction sur ce que tu as prévu pour eux. Que leur année 2024 soit complètement différente des autres années parce qu'ils t'auront consulté. Seigneur Dieu, je te loue, je te rends gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Yes, on peut aller en adoration.